Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est 9h41, vous êtes sur France Inter, soyez tous les bienvenus dans l'Instant M.
Bonsoir, merci d'être avec nous.
Les images, les correspondants en direct.
C'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique.
Député vert, évidemment maire, conseiller régional, député européen, candidat à la présidentielle, ancien visage du JT, 50 années de vie politique et journalistique. C'est justement dans ce regard, ce matin, que j'aimerais interroger les relations complexes entre l'écologie et l'information, entre l'écologie et sa médiatisation, ses errances, ses échecs, son renouveau, ses victoires, ses dérives. Vous savez quoi ? En la matière, l'ancienneté a du bon.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Noël Mamère.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Je vous invite parce que vous avez plusieurs actualités, notamment un podcast, donc un programme audio à écouter, qu'on peut aussi visionner sur votre chaîne YouTube, que vous avez intitulé « Ça me fait mourir de rire, la vie de ma mère ». Quand même, vous avez de l'humour.
Oui, mais on a tellement joué avec mon nom depuis mon enfance que pour aujourd'hui, ça a devenu quelque chose de classique de jouer avec mon nom. Oui, la vie de ma mère, c'est pas moi qui ai eu cette idée, c'est Guillaume Combasté de Wake Up Production avec lequel j'ai fait ce podcast qui a eu cette idée-là. Je trouve qu'en effet, c'est pas si...
Des interviews engagées, de figures engagées, vous questionnez justement la notion d'engagement, on va en reparler. Vous avez publié aussi une bande dessinée qui s'appelle Les Terrestres, qui cartonne Noël Mamère. Et puis ce petit livre que j'ai lu, Noël Mamère, l'écologie pour sauver nos vies, c'est sorti aux éditions des Petits Matins. Et justement, en feuilletant ce petit livre, moi j'étais gamine, Noël Mamère, donc je ne m'en souvenais pas. Et... En fait, vous avez présenté le 13h d'Antenne 2 entre 1982 et 1986. Ça, je m'en souviens parfaitement. Nos auditeurs s'en souviennent parfaitement. Lorsque débute la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, le visage qui est à l'antenne pour rassurer les Français, c'est notamment le vôtre.
L'Europe et particulièrement les voisins de l'Union soviétique sont très inquiets, bien sûr, de la progression de ce nuage radioactif dont la teneur reste pour le moment sans danger. Ce matin, le service central de protection contre les radiations ionisantes a annoncé une légère hausse de la radioactivité atmosphérique, non significative pour la santé publique, dans le sud-est de la France et plus spécialement au-dessus de Monaco.
On était donc en 1986, j'aurais aimé que les auditeurs voient cet archive, car quand vous dites non significative, vraiment vous l'appuyez de votre gestuelle. Vous racontez tout cet épisode dans ce petit livre, L'écologie pour sauver nos vies. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Parce que voilà un grand moment de télévision, d'information et d'information écologiste dont tout le monde a dû tirer des leçons.
Oui, nous avons été, bien, c'est la preuve de du pouvoir. À la fois du lobby nucléaire, oui. Qui est un lobby qui n'est pas du tout un lobby financier, mais un lobby d'État qui est constitué principalement des ingénieurs du corps des mines et qui est très puissant depuis la Deuxième Guerre mondiale et la relance le lancement du programme nucléaire dans les années 70. Moi, j'étais dans une télévision en 86 qui avait déjà largement commencé à s'émanciper,
oui.
Mais sur tout ce qui concernait les informations scientifiques, on n'était pas les meilleurs et on croyait, et c'est le contraire du journalisme, ce qui nous était dit par le professeur Pellerin, qui était le patron de ce fameux service des protections des rayons ionisants. Ça n'a pas duré très longtemps parce que, en fait, quand on présente des journaux télévisés dans les grandes chaînes nationales, à l'époque c'était TF1, ça s'appelait pas comme ça, et Antenne 2, on est abonné à une bourse d'image,
oui.
Qu'on appelle les EVN,
oui.
Et qui, et d'ailleurs quand vous regardez un journal de 20h de France 2 ou de TF1 aujourd'hui, vous voyez bien souvent les mêmes images sur des événements où les journalistes maison n'ont pas pu aller. Et on recevait des images de la Suède qui expliquait que le nuage avaient franchi leurs frontières. Mmh. Et donc le doute s'est installé sur les propos que tenait le professeur Pellerin. Mais ça a quand même duré quelques jours.
Oui. Il y a toute une histoire aussi de présentateur météo que vous racontez.
Oui. Alors, si vous voulez, le présentateur météo, ben lui aussi, il a été comme nous. Hein. C'est une défaillance collective. Je pense que c'est injuste, avec le recul,
d'accuser... Sur la carte météo, il avait collé une espèce de stop pour
alors,
dire, regardez,
effet,
le nuage ne passera pas,
météo,
il y a l'anticyclone des Açores.
Alors, il ne faut pas remettre en cause uniquement les journalistes météo, ce sont aussi les journalistes du service scientifique. parce que le journaliste météo, il n'est pas spécialiste de la météo, il est informé par la météorologie nationale, faut pas se tromper, et il était là instruit par le service scientifique. Je pense que ça a été une, disons, une manipulation à laquelle nous nous sommes soumis. Ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai fait partie de ceux qui se sont battus pour qu'on fasse parler des ingénieurs nucléaires critiques. Et c'est arrivé. Et d'ailleurs, le professeur Pellerin montait tellement fort qu'il a été viré comme porte-parole du nucléaire s'exprimant dans les télévisions quelques jours plus tard par le ministre de l'Industrie de l'époque qui s'appelait Alain Madelin, qui montait moins mais qui montait encore pas mal. Mais il faut que vous sachiez que cette histoire m'a valu un procès qui a duré 10 ans.
Ouais.
Parce que quelques années plus tard, j'étais invité d'une émission de Thierry Ardisson aux côtés de Michel Pollack, qui était un grand lecteur et qui parlait d'un livre majeur qui s'appelle La Supplication de Svetlana Alexievitch, qui est aujourd'hui prix Nobel. Et La Supplication, c'est un livre poignant sur Tchernobyl. Et là me revient, c'était bien des années après, cet épisode que vous venez d'évoquer, et où je dis, oui, il y avait le professeur Pellerin, un sinistre personnage, qui nous faisait croire que le nuage n'avait pas franchi les frontières de la France.
Vous a attaqué en diffamation.
Et ce monsieur m'a pas attaqué en diffamation pour sinistre personnage, mais parce qu'il n'a jamais réellement prononcé ce mot. C'est allé jusque devant la Cour européenne, j'ai perdu à tous les étages en France, et ça a fait jurisprudence, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a cassé la décision française, et on est revenu devant la juridiction française. Mais l'OMS a montré que la France avait été particulièrement légère avec cette affaire. Et quand on regarde ce qui s'est passé au début de la pandémie avec les masques, où on nous disait on n'a pas besoin de masques parce qu'il n'y avait pas de masques, et quand on voit les précautions qui sont prises aujourd'hui par rapport à ce qui est en train de se passer en Chine avec un réacteur EPR, quand je vois ce qui s'est passé en 1999 avec la centrale nucléaire du Blayais qu'on appelle Tchernoblaï, où le préfet avait téléphoné à Juppé, maire de Bordeaux, monsieur le maire, il se pourrait que si on arrive à une alerte niveau 3, on évacue la population de Bordeaux. On a mis beaucoup de temps à savoir qu'on a frisé la catastrophe. Donc, le nucléaire civil n'est que le prolongement du nucléaire militaire. Donc, il est basé sur deux pivots, le secret. Et pour protéger un secret, il faut mentir.
Voilà qui est dit. J'aimerais avec vous, Noël Mamère, avant qu'on en vienne à ce travail que vous faites aujourd'hui en podcast, en bande dessinée, à travers vos bouquins, qu'on se rebalade un peu dans l'histoire de la médiatisation de l'écologie en France. Évidemment, on va revenir aux années 80. Évidemment, on va revenir à Ushuaïa. Évidemment, on va revenir à Nicolas Hulot. Écoutez-le au micro de Jacques Chancel.
Je pense que le regard qu'on a porté, entre autres pendant ces 8 années, sur la planète, qui est une espèce d'hymne à la nature, en fait, et un inventaire des phares les plus éclatants de la beauté du monde, et qui sont nombreux, a élargi notre vision du monde, nous en a donné peut-être une vue un peu plus complète et un peu plus juste. Il nous a pas pour autant éloigné, je pense, des hommes. Je pense qu'elle nous en a rapproché avec peut-être plus de discernement, plus de nuances qu'on en avait auparavant.
Ce qui est intéressant dans la démarche de Nicolas Hulot, c'est qu'il y croyait dur comme fer. Il croyait que montrer la beauté de la nature, la splendeur de la nature, la magnificence de la planète allait nous forcer à la respecter. Et ce fut un échec sur toute la ligne, en réalité, Noël Mamère. Le public a regardé ça comme des belles cartes postales qui fait rêver et n'a absolument pas changé ses comportements.
Oui, on ne peut pas reprocher à Nicolas Hulot d'avoir tenté d'exprimer la beauté du monde. On sait depuis 1969, depuis qu'Armstrong a posé le pied sur la Lune, que la Lune est un désert et que la Terre doit être protégée, que ses ressources ne sont pas illimitées, que c'est une planète singulière et d'une beauté unique. C'est vrai que je pense que Nicolas Hulot a participé à une prise de conscience de ce que le philosophe Bruno Latour appelle notre entourage. Mais le fait que ce soit fait à la télévision, Ça a contribué à faire de la nature comme si la nature protégée dans un bocal, un petit peu comme si on regardait, un petit peu comme si on l'allait à Disneyland et puis on en ressortait, on pouvait faire autant de bêtises après. Donc je pense que la réalité de l'écologie, enfin du combat de l'écologie, c'est à la fois montrer la beauté du monde et montrer que l'écologie c'est un combat. Contrairement à ce que disent tous ceux qui voudraient faire croire que l'écologie peut être de droite et de gauche et qu'elle peut transcender les références politiques, c'est un mensonge. L'écologie, elle a des adversaires. adversaire déterminé, on le voit de plus en plus aujourd'hui. Elle a des ennemis qui préfèrent le statu quo à un changement de modèle. Et donc l'écologie, c'est à la fois exprimer la beauté du monde et dire comment on peut la préserver, comment on peut vivre avec tout ce qui nous entoure, tout ce qui est vivant, quelles sont les manières que l'on a d'être vivant, comme le dirait le philosophe Baptiste Morisot. Prendre conscience que nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne, et je pense que la pandémie a largement contribué à cela, ça c'est une évidence, et en même temps se battre avec détermination, et c'est difficile pour l'écologie. C'est pour ça que nous avons tant de difficultés à
émerger.
Alors
justement, la médiatisation du combat, d'accord ? J'arrive à Hugo Clément, qui est une sorte de nouvelle figure médiatique, et qui axe justement son travail médiatique, y compris des prime time sur le service public, justement ça s'appelle sur le front, et c'est au tour du combat.
Oh là 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 là. Ah, le carnage.
C'est cela que les forestiers appellent une coupe rase.
Tout est décapé. Il y a presque 1,50 m, 2 m de sol qui a été décapé, t'as la roche qui est à nu. Voilà. Donc là, en fait, le sol forestier, il est parti. J'ai pas envie de dire à jamais, mais il faudrait centaines d'années pour recréer un sol comme il est aujourd'hui, quoi.
Vous savez ce qui me frappe, Noël Mamère, dans ces émissions qui sont toujours très très bien faites, c'est que en fait, comment expliquer, les institutions en sont quasiment absentes. L'État en est quasiment absent, quel que soit le pays où on est. Les grandes organisations, les grands organismes en sont quasiment absentes. C'est comme si notre avenir dépendait, quand on regarde Hugo Clément, des engagés, des combattants, des militants de la société civile, des initiatives citoyennes et activistes.
Bah vous parlez comme une écologiste quand vous dites ça, parce qu'on ne change pas les sociétés par le haut, on les change par le bas, par la mobilisation. Quand je vois, par exemple, ma génération a été souvent considérée comme des Cassandres, des gens qui vendaient l'apocalypse, qu'il ne fallait pas croire. Et moi, je suis aujourd'hui, mais nous avons contribué à faire infuser les idées de l'écologie dans la société. Mm-hmm. Et aujourd'hui, nous sommes relayés par ces jeunes qui ont entre 15 et 20 ans et qui manifestent pour le climat, qui font la grève du vendredi. Et ce qu'il y a de beaucoup plus fort par rapport à notre époque.
Vous ne croyez plus aux vertus de l'État ?
Mais si, bien sûr, parce que je vais continuer mon propos.
Ah.
À la fois, Internet permet à toute cette jeunesse planétaire de se mobiliser pratiquement au même moment.
Oui.
Ça crée quand même beaucoup de pression. Et on ne peut pas imaginer que dans une démocratie, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'écologie est totalement liée à l'expression démocratique. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a des prises de pouvoir par des dictateurs, en général, ça devient une catastrophe écologique. Et se produisent des catastrophes écologiques. Mais cette mobilisation, elle doit conduire les États à bouger. Donc c'est une réalité qu'aujourd'hui, on voit bien, bon, il y a eu cette Convention citoyenne pour le climat, elle n'est pas née comme ça, elle est née sous la pression. On a vu ce qui a été fait, ok, mais quand on voit par exemple Biden qui dit, le nouveau président des États-Unis, qui dit que la question du dérèglement climatique est une question existentielle. Mmh. Ça veut donc dire qu'il y a aujourd'hui, de la part des États, la prise de conscience qu'on va dans le mur. Est-ce qu'ils seront résistés à de puissants lobbies dont ils sont souvent les serviteurs ? C'est là qu'est toute la question, évidemment.
J'aimerais que on se replonge dans ces catastrophes naturelles qui, pour le coup, elles, rencontrent un certain succès médiatique.
6 Français sur 10, Géraldine, craignent un effondrement de notre civilisation. Et ça s'appelle la collapsologie.
Il y a un moment où il n'y aura plus de pétrole. Il y a un moment où il n'y aura plus d'eau douce.
Plus il y aura de personnes préparées à l'effondrement, et mieux ça va se passer.
Je pars du principe que peut-être mes enfants n'atteindront pas leur majorité.
Vous l'avez entendu, pour eux, la fin du monde est proche. Eux, ce sont les collapsologues, un mot auquel il va falloir désormais s'habituer.
Vous en dites quelque
chose ?
Ça, c'est
une caricature. C'est une caricature.
Mais c'est fou à quel point les médias.
Mais parce que les médias ne veulent pas.
Véhiculent cette caricature et se ruent dessus.
Parce que les médias, ils sont victimes de 3 poisons qui sont la dictature de l'instant, la tyrannie de l'émotion. Et la simplification. On n'arrête pas de nous expliquer que le monde est binaire, mais le monde, il est beaucoup plus complexe que ça.
Mmh.
Quand on parle d'effondrement, on vous dit pas que le 41 juillet 2050 à 2h30, le monde va s'effondrer.
Mmh.
Est-ce que la pandémie n'est pas un ébranlement de la planète ? On dit, quand on parle d'effondrement, c'est pas l'effondrement du monde, c'est l'effondrement d'un monde. C'est comment on passe d'un monde à un autre. C'est-à-dire la question de la prise de conscience de la question de l'effondrement conduit à l'action et non pas à la résignation. Car si vous dites que demain tout sera fini,
oui,
alors pourquoi agir aujourd'hui? C'est une manière de vous siphonner toute volonté
fini,
politique.
Mais quand aussi on voit se succéder dans les journaux de 20h et sur les chaînes d'info,
mais il n'y a pas que cela.
Les 10 plaies d'Égypte, parce que vous n'avez pas l'impression que quand il y a les feux de forêt en Australie,
mais
quand
ils sont déjà là, les effondrements, ils sont déjà là quand vous
voyez. Mais qu'il y a une manière de le médiatiser comme une espèce de grand spectacle catastrophique et punition divine.
Exactement, on peut rester des spectateurs complètement sidérés, ce que font malheureusement trop souvent les médias, ou essayer de comprendre pourquoi cela se passe. Et chaque fois qu'on va chercher les explications, on les trouve. Et quand on les trouve, on éclaire l'opinion. Les médias, ils sont pas là pour nous éteindre, ils sont là pour nous éclairer. Et c'est le rôle de l'écologie, c'est aussi cela. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons eu tant de difficultés à émerger dans les institutions et dans l'opinion, parce que nous sommes toujours attachés à expliciter la complexité des choses. Quand vous parlez d'exode rural, par exemple, quand on analyse la question des gilets jaunes, c'est pas simplement des gens qui protestaient contre la taxe sur le gazole. Ce sont des gens qui ont été obligés de quitter les villes parce qu'il n'y a pas de mixité sociale, et donc qui ont été contraints à l'exode urbain, prisonniers de leur bagnole, bien souvent dans des zones où qui auraient pu avoir une vocation agricole, où on a constitué des logements et où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de service, et qui deviennent des déserts. Tout ça s'explique, mais il n'y a pas une explication. Mmh. Il y en a plusieurs. Donc, des effondrements, nous en connaissons déjà. L'effondrement, par exemple, de la biodiversité, on n'en parle jamais. C'est quand même effrayant ce qui est en train de se passer. Comment doit-on l'appeler? Ça s'appelle un effondrement. Oui, il y a aujourd'hui sur cette planète.
Je voudrais qu'on dise un dernier petit mot sur la vie de ma mère, ce podcast, puis on en reparlera une autre fois, parce que là, on a plein de choses intéressantes à se raconter. C'est-à-dire que dans l'interview de Cyril Dion, par exemple, il vous raconte ce que c'est que le burn-out d'un militant. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous avez de la bouteille, vous les avez vus passer tous. Vous avez vu ces combats pour se faire entendre, ne serait-ce que pour se faire entendre. Et vous avez vu ceux qui y ont laissé leur peau, d'une certaine manière.
J'ai très bien fréquenté, j'ai fréquenté pendant très longtemps, parce que dans le Sud-Ouest, dans les combats qu'on a menés dans les années 70 et 80, un garçon comme Éric Pététain, qui était une figure emblématique du combat contre le tunnel du Somport, eh bien, le militantisme l'a beaucoup, beaucoup amoché, beaucoup cabossé. Et ce que j'essaie de faire dans ce podcast, c'est à la fois montrer un autre aspect de ces militants très connus comme Cyril Dion, un autre aspect de leur personnalité, et montrer qu'ils ne sont pas arrivés là, comme ça, du jour au lendemain, comme l'écologie d'ailleurs, qui a des penseurs depuis le 19e siècle. Et pour aussi essayer d'éclairer toute cette jeunesse qui milite sans savoir très bien, sans avoir un véritable background, pour employer une expression à la mode. C'est-à-dire, essayer de faire parler des sociologues, des philosophes, des activistes qui viennent apporter un éclairage à tous ceux qui se battent et qui ont envie de changer le monde. Alors je ne sais pas si on peut changer le monde, en tout cas ce que je sais c'est qu'on peut le réparer.
Merci beaucoup Noël Mamère, la vie de ma mère, ça nous fait toujours rire, c'est efficace, on s'en souviendra.